entre-revue par Mathieu Bénézet, réalisation Brigitte Rioué. On ne saura jamais, j'en suis persuadé, réellement, ce qui conduit un homme seul à fonder une revue. Exercice d'admiration, dit-il, à n'en pas douter, mais 20 ans à tenir, à prolonger le même geste, écrire, téléphoner, attendre des tapuscrits, composer des sommaires sans thème, au simple voisinage des textes et des noms, drôle d'activité, aussi étrange qu'un Paul Valéry se levant 20 ans durant, au petit matin pour écrire ses cahiers. On ne saura jamais, j'en suis persuadé, ce qui conduit un homme à signer ses propres textes, ou à contresigner ceux des autres, au risque de se perdre, au risque de rencontres improbables, au risque de rencontres différées. Et pourquoi poursuivre? Pourquoi ne pas s'arrêter? Quelle présence ou quelle absence? Et rêver, espérer. Peut-être un goût pour le roman, un roman sans intrigue, peut-être un goût pour le roman sans romanesque, une chose qui s'apparenterait au feuilleton, le feuilleton d'une génération dans la trace des corps et des vies. Une manière ponctuelle d'être visible ou lisible, de n'être pas séparé ni absent. Au sommaire, une revue venue d'ailleurs, je veux dire de Genève, la revue Furor. Daniel Willem, c'est il y a 20 ans, en 1980, que vous avez fondé à Genève la revue Furor, qui publie aujourd'hui son numéro 29, consacré à Maurice Blanchot. Qu'est-ce qui a présidé en cette année 1980 la décision de fonder la revue Furor? Et pourquoi ce titre, Daniel Willem?
J'ai trouvé le titre dans Dumézil et dans Foucault. Furor, c'est l'une des qualités que l'on attribue aux héros épiques. La revue Furor,
ça veut dire cri aussi, non? Il y a un dessin de Michel-Ange qui représente un homme en train de crier, qui s'appelle Furor.
C'est un cri, c'est un mélange de ruse, de vigueur, d'affirmation. C'est ça le Furor. Et la revue, dans ses débuts, et en donnant des places à certains grands textes que j'aimais, elle n'a été faite que de cette façon-là. Une revue naît toujours comme un acte de résistance, mais ici c'était un acte de résistance dans l'amitié, la fidélité et l'admiration. Dans les sommaires de la revue Furor, il faut lire les exercices d'admiration.
Donc vous pensiez sérieusement, Daniel Willem, que la réflexion, disons, de l'essai n'était pas réellement accomplie, il n'y avait pas de lieu pour elle?
Elle n'était pas accomplie dans un rapport critique et organique avec les universités qui, avec retard, reprenaient des débats qui ont fait partie de ce grand moment critique où l'essai avait une part importante dans la vie culturelle française, et plutôt que de les voir retourner à l'université avec le temps de retard et le temps d'affaiblissement, ou le temps ou le moment faible qu'implique la reprise dans et par l'université, Führer s'est donné, je crois, quelques moyens pour reprendre ces textes et les maintenir dans un projet autonome.
Qu'est-ce qui conduit un homme seul, comme vous, Daniel Wilhelm, en cette année 1980, à entreprendre ce travail? Qu'est-ce que vous en attendiez? Qu'est-ce que vous en avez reçu aujourd'hui?
Toutes ces questions sont difficiles puisqu'elles mettent le désir d'un éditeur, le désir d'un auteur à nu, là où il est engagé et là où il a toujours des difficultés à dire sa vérité d'éditeur, sa vérité de lecteur aussi. Mais je peux très vite mettre en évidence mon désir, quel désir de lecteur, le désir de lecture. C'est une revue fondée sur la nécessité critique d'engager la lecture des textes, de rendre les textes plus lisibles et de défendre une critique littéraire qui aujourd'hui, tout l'indique, est en perte de vitesse.
Jusqu'au numéro 22 que vous venez de publier, consacré à Maurice Blanchot, on peut dire que jusque-là, il n'y a pas eu de thème, pas eu de titre générique, pratiquement, la revue Führer. Comment vous composiez vos numéros ?
Je me suis donné aucune facilité qu'implique le dossier ou le thème convenu. Ce qui me paraît important, c'est de construire des sommaires dans lesquels les auteurs impliqués, les auteurs donnés à lire, sont des voisins qui ne se rencontrent pas. C'est ce qui m'intéresse dans une revue, c'est la succession de voisins, d'interlocuteurs qui ne font partie ni d'un mouvement, ni d'une clique, ni d'un collège qui défendrait une revue comme si elle devait se doter d'un manifeste permanent.
Est-ce que chaque numéro de la revue Führer que vous avez composé, Daniel Wilhelm, avait comme modèle secret, lointain, ou voisin, pour prendre votre terme, celui du livre ?
Oui, c'est le livre qui est surtout la société, la civilisation, la communauté du livre qui fait fond et qui m'occupe chaque fois qu'un sommaire doit être composé. Mais c'est aussi, par essai interposé, la difficulté de faire tenir l'essai dans l'unité du livre. L'essai est inconfortablement engagé dans le livre. Il est mieux engagé, ou tout au moins mieux placé dans l'espace de la revue, dans ce qu'elle a de nécessairement périodique, mais qui n'actualise jamais de numéro en numéro un problème à la mode, un problème dans l'actualité des débats littéraires qui sont pour la plupart avortés.
Ces 29 numéros de la revue Führer, Daniel Wilhelm, dois-je tenter de les lire dans une espèce d'anonymat ? Dois-je les considérer comme un livre que vous pourriez signer, vous, l'écrivain, l'essayiste Daniel Wilhelm ?
Je peux tenter de contresigner chacun des textes, mais non pas de les signer. La contresignature serait, dans ce romanesque sans intrigue qu'implique la confection des numéros les uns après les autres, la contre-signature serait la tentative d'accompagner sans vergogne toute l'admiration que je porte à chacun des auteurs invités.
La composition, le travail de revue, est-ce que ça vous a aidé à accomplir votre œuvre personnelle ou est-ce que ça l'a amoindri ? Comment s'est joué le rapport entre l'essayiste, l'écrivain Daniel Wilhelm et son activité de revuiste ?
C'est une intensification. Un auteur, un éditeur, un professeur, puisque ce sont mes fonctions plutôt que mes places. Führer d'ailleurs n'a jamais cherché à prendre une place, mais plutôt à définir une fonction. Cette triple fonction me paraît non seulement intensifié par le rôle que joue ce périodique en moi, mais aussi ces rencontres différées ou ces rencontres retardées que chaque sommaire compose et recompose sous mes yeux.
J'aimerais que vous me lisiez un extrait de votre contribution à ce numéro Maurice Blanchot, numéro d'ailleurs qui reprend en annexe tous les sommaires de cette revue, de 1980-1999.
Je pense à ceux qui demandent à Brecht de ménager dans son théâtre des distances qui, dans toutes les représentations scéniques, sont déjà prises. Je songe non pas à ceux qui attendent qu'on réduise les écarts trompeurs entre la salle et la scène, ou entre l'acteur et son rôle, mais à ceux qui voudraient que l'on pousse le spectateur paresseux vers la porte de sortie. J'observe que certains se désolent encore que Brecht ne dise rien nulle part contre les pouvoirs des images, que la mise en scène ne renonce jamais complètement à servir, quand les acteurs entrent ou sortent, quand ils commettent les bévues qui les font parler, quand ils montrent toujours étourdiment, sans avoir à tenir ni à garder une distance imposée, qu'ils ne sont pas vraiment ce qu'ils jouent. Mais pourquoi gronderait-on les acteurs étourdis, ou même fourvoyés, puisque l'on sait bien et que l'on sait mieux que depuis que Brecht a publié son Organon, que la distance théâtrale n'est pas à prendre, mais simplement à mesurer. Blanchot, dans son essai sur Brecht, néglige l'instrument dont le dramaturge se sert, non pour faire la police des textes, mais pour estimer ce qui, dans un texte, peut être complété par la mise en scène. Il note certes que des événements sont racontés au théâtre, que des pièces deviennent des histoires, que des acteurs se tournent vers nous, que des dialogues sont conduits résolument, que le silence du spectateur perdu dans la foule ne se rompt pas. Il note aussi que la narration dissimulée dans le théâtre politique, des directives, des instructions et des commandements, que les discours sont prononcés dans des pièces militantes où le théâtre se retrouve en quelque sorte dans toutes ses périodes. Cependant, il oublie l'espèce de récit que le chant n'élève pas, que le poème ne rythme pas, que le drame ne sait pas dénouer, mais que fonde l'épopée du théâtre quand on la débarrasse de ses bavardages héroïques. Il oublie donc la fable qui est seule, lorsqu'elle est bien assise, lorsqu'elle est subtilement taillée, à pouvoir ajuster la représentation théâtrale à son sujet. Brecht a écrit des textes inoubliables, mais sans doute impardonnables, sur le théâtre épique. Il a indiqué que dans la suite des tableaux nécessaires, toute une charge porte sur chacune des scènes et non sur l'ensemble de la scène représentée. Il a précisé que cette charge n'est pas à chercher dans le cours du récit, mais dans un petit nombre de faits qui sont restés les attributs fondamentaux de toute narration théâtrale. C'est pourquoi l'on continue d'attendre de la fable écartée par Blanchot, effacée dans le vœu d'un théâtre moins disert, non qu'elle se développe, non qu'elle mûrisse, non qu'elle se confonde avec la péripétie, non qu'elle se répartisse dans les dialogues, non qu'elle se dévoile au bout de l'intrigue, mais qu'elle oriente le spectateur jusque dans l'époque où des paroles à chaque instant peuvent être encore jouées. Je ne demanderai pas à Barthes, qui m'a rendu Brecht plus net, de réparer un oubli de Blanchot. Je lui emprunterai simplement un exemple saugrenu, nullement épique, cherché hors du théâtre, mais qui m'y ramène à cause d'une fable bien ajustée. Je cite « Maupassant déjeunait souvent au restaurant de la Tour Eiffel, que pourtant il n'aimait guère. C'est, disait-il, le seul endroit de Paris où je ne la vois pas. »